Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Et on commence avec les grands titres de l'actualité pour ce 2 janvier. Les incendies en Australie, pas de signe d'accalmie. Le point donc total pour le Victoria et la Nouvelle-Galles du Sud dans ce journal. En France, 28e jour de grève dans les transports, alors même que le statut officiel de la SNCF vient de changer en ce début de 2020. Et la Russie qui souhaite faire mainmise sur les diamants de la Centrafrique, c'est en tout cas la crainte, alors que le pays prend la tête de l'autorité qui régule le commerce des diamants en Afrique. Débute donc ce journal avec les incendies à travers le pays. Dans le Victoria, des dizaines de feux continuent de brûler à travers tout l'État. Des informations selon lesquelles une personne serait décédée dans la ville de Bushan également. Les efforts pour sauver des milliers de personnes coincées dans les villes isolées de l'Est du Victoria ont commencé avec l'arrivée de l'armée dans l'East Gippsland. C'était donc ce matin avec des hélicoptères Black Hawk également qui aident à évacuer la plage de Malakota. L'officier en chef du CFA, CFA Country Fire Authority, Steve Warrington, a déclaré, c'était sur ABC News, que tous les efforts sont déployés pour évacuer les gens de la plage de Malakota et accéder aux communautés isolées. On l'écoute.
It is not safe to drive on those roads. We have communities isolated, and where we can, we're putting fire crews in with those communities, so we're all working together, as we've done at Malakota. Our focus today is we've got 4,000 people in and around the beach there at Malakota, and you're right, we're working with the ADF and all the authorities, Victoria Police, SES, all the agencies are working, and our primary effort now is to get those people out of Malakota.
Voilà, donc Steve Warrington du Country Fire Authority, le CFA. En Nouvelle-Galles du Sud, au moins 380 maisons ont brûlé depuis le début des incendies et 7 personnes sont mortes. Mardi matin, une femme se rendait à un centre de traitement contre le cancer à Shoalhaven, dans la région de Nowra. Elle devait y subir une radiothérapie lorsqu'elle était arrêtée par le feu de Kolongjola. Elle a déclaré aux journalistes que c'était une scène de film d'horreur. Le ciel est passé du bleu à des boules de feu en une rapidité incroyable. Le commissaire adjoint des incendies de Nouvelle-Galles du Sud, Rob Rogers, a déclaré sur Sky News que l'ampleur des incendies signifie qu'ils ne peuvent pas se contenir, ils ne peuvent pas être contenus par les autorités, et donc il incite les touristes, à sortir de la région via le côté sud. On l'écoute.
Get out today or tomorrow. Do not leave it till Saturday. We saw on New Year's Eve by 3:30 in the morning, we were starting to lose property, and we're having people calling saying they were trapped in their homes. We don't want a repeat of that. We had told people to get out. We need people to get out early. Make sure you're out before that day.
Voilà, donc Rob Rogers des autorités de lutte contre les incendies en Nouvelle-Galles du Sud. 13h04 dans le reste de l'actualité. Direction l'Irak, les milices soutenues par l'Iran se sont retirées de l'ambassade des États-Unis après que le gouvernement américain ait déployé des troupes supplémentaires et menacé les représailles. Le complexe de Bagdad a été attaqué par des manifestants en représailles à la mort de miliciens lors d'attaques aériennes américaines. Mardi, donc le 31 décembre, des manifestants en colère contre les frappes aériennes américaines sur l'Irak ont lancé des pierres et incendié un poste de sécurité à l'intérieur de l'ambassade américaine. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a déclaré sur Fox News qu'il n'y avait aucun plan d'évacuation des troupes et aucun plan de départ de troupes. On l'écoute.
The role there is security and deterrence to ensure that we have the resources available to combat anything that should come at the embassy, but also to signal very clearly to those who might think about bringing harm to our facility, to our people, that they ought to think twice.
Voilà, donc le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, depuis ce rassemblement, a été dispersé. Les explications de Nicolas Falaise pour RFI.
La manifestation violente contre l'ambassade américaine est qualifiée de grand succès par le Hashed al-Shaabi, ou mobilisation populaire qui regroupe les différentes milices chiites irakiennes. Cette organisation a appelé ce mercredi les manifestants à quitter le secteur, estimant que le message avait été entendu après 24 heures de rassemblement hostile à la présence américaine en Irak. Protestation spectaculaire, laissant une ambassade à la façade dégradée et en partie couverte de drapeaux drapeau des milices chiites irakiennes. C'est l'un de ces groupes paramilitaires proches de l'Iran qui a perdu 25 hommes dimanche soir dans des raids de l'aviation américaine. Ces milices sont devenues très puissantes et influentes en Irak, comme en témoigne la facilité avec laquelle leurs membres ont pu pénétrer mardi pour manifester dans la zone verte ultra sécurisée de Bagdad, où se trouve l'ambassade des États-Unis. Les événements de ces derniers jours en Irak montrent une lutte d'influence de plus en plus tendue dans ce pays où s'opposent les intérêts américains et iraniens.
13h06 exactement, en direction la France maintenant, et le pays qui vient de vivre son 28e jour de grève dans les transports, et pas d'amélioration nécessairement en vue. D'ailleurs, les grévistes et les syndicats restent mobilisés, d'autant plus que le président français Emmanuel Macron a réaffirmé dans ses voeux que la réforme sera menée à son terme, et en même temps, enfin on verra ça dans quelques instants, mais dans le même temps, le statut de la SNCF a changé. C'est hier que la réforme de 2018 est entrée en vigueur, et c'est une série de changements importants, comme nous l'explique David Bachet.
Le premier changement est administratif. La SNCF, qui était composée de 3 établissements publics, devient une société anonyme à capitaux publics. Ces capitaux détenus par l'État sont incessibles, ce qui empêche toute privatisation, à moins d'une modification de la loi. L'État s'est également engagé à reprendre les 2/3 de la dette du groupe, 35 milliards d'euros, en échange d'une organisation plus économe, ce qui passera par davantage de polyvalence et de mobilité des salariés. Deuxième changement de taille, la fin des embauches au statut. Les 130 000 cheminots déjà en poste conservent leur retraite avantageuse, leur emploi à vie et leurs billets de train gratuits. Mais les nouvelles recrues seront dorénavant embauchées dans un cadre contractuel qui n'a toujours pas été défini, pas plus que la convention collective du ferroviaire qui s'appliquera à tout le secteur. Un point crucial puisque la réforme prévoit enfin l'ouverture du transport de voyageurs à la concurrence. C'était déjà le cas pour le fret. Dans les faits, les premiers trains privés ne devraient pas circuler avant au moins 1 ou 2 ans. Pour les usagers, cette réforme est censée apporter plus de choix et des tarifs plus bas, même si les expériences similaires à l'étranger montrent que l'effet a souvent été inverse.
Et c'était David Bachet pour RFI. Alors je vous le disais il y a quelques instants, le président français Emmanuel Macron a dans ses voeux renforcé son désir de réforme. Les explications et les détails, pourquoi cela, avec Valérie Gasse pour RFI.
Les municipales, les sénatoriales, les départementales, les régionales, tous ces scrutins dont Emmanuel Macron a parlé lors de ses vœux aux Français sont les étapes qui vont préparer l'échéance ultime, la présidentielle. Car c'est clair, désormais, le président de la République pense à l'avenir et espère bien réussir ce que ses prédécesseurs, Nicolas Sarkozy et François Hollande, ont raté, être réélus en 2022. Alors pour y parvenir, la stratégie se dessine déjà. D'abord, Emmanuel Macron veut se préserver en laissant son premier ministre mettre les mains dans le cambouis. La réforme des retraites est de ce point de vue exemplaire. C'est Édouard Philippe qui doit gérer la crise. Ensuite, Emmanuel Macron veut poser les bases d'un nouveau programme. Car les réformes promises en 2017 sont pour la plupart engagées. Le président commence d'ailleurs à essayer de montrer qu'il y a des résultats. Il faut donc préparer d'autres propositions. Et lors de ses vœux, il a donné quelques indications, notamment en évoquant un nouveau modèle écologique et économique. Tout le problème pour Emmanuel Macron est de rester le même dans sa volonté de réformer, tout en montrant qu'il est capable d'être plus à l'écoute. Bref, de donner un nouveau sens à son fameux et en même temps la phrase qui fit son succès en 2017.
13h09, direction Hong Kong maintenant. Des centaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues donc de Hong Kong pour une marche de protestation, la marche de protestation annuelle du Nouvel An, alors que le mouvement pro-démocratie dure depuis plusieurs mois. La police a déclaré avoir arrêté jusqu'à 400 personnes pour rassemblement illégal et port d'armes offensifs. Certains manifestants se sont détachés de la foule principale, pulvérisant des distributeurs automatiques de billets, brisant des feux de croisement, des feux rouges et arrachant des briques sur les trottoirs du quartier financier du centre-ville. La police a interrompu donc les manifestations à l'aide de gaz lacrymogène et d'un canon à eau, malgré une déclaration du gouvernement affirmant que les officiers déployaient la force minimale nécessaire. Le superintendant de la police, N. Lok Chung, a déclaré aux journalistes que les émeutiers avaient détourné la marche de protestation à un moment donné. Ils avaient même mis en danger les policiers, les entourant avec des objets en leur jetant des pierres dessus. La police a annulé cette manifestation à 18h15.
I want to seriously condemn the rioters that caused the trouble and the crimes that happened today and for not allowing the peaceful participants to conduct the procession in a safe and orderly manner. But throughout this process, I know that the organizers have been working very hard with us to try to keep it in a peaceful manner. But it's very unfortunate that the rioters, they hijacked this procession again and making it not being able to finish at the end point.
Voilà donc le superintendant de la police de Hong Kong, En Lok Chung. Alors avec ces nouvelles manifestations, le mouvement montre qu'il veut créer un nouveau souffle en 2020. C'est ce qu'explique Monsieur Lam. Il est le représentant des commerçants de Hong Kong.
Nous essayons d'être les plus nombreux possibles, de nous rassembler pour faire pression sur le gouvernement. Comme vous le savez, notre chef de l'exécutif a plus d'attention pour les policiers que pour la population. Le gouvernement continue de nous ignorer, donc nous ne savons pas comment ça va se terminer. Mais nous pensons que tous ensemble, nous pouvons changer les choses. Nous demandons simplement au gouvernement chinois de tenir sa promesse, de respecter le modèle un pays, deux systèmes, ne pas simplement le dire, mais le faire.
Comment vous voyez cette année qui commence ?
Just hope.
Nous avons l'espoir que les choses changent.
Just trying.
Voilà, le porte-parole des commerçants de Hong Kong, Monsieur Lam. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré qu'il demanderait au Parlement de lui accorder l'immunité contre les accusations de corruption. Cette décision devrait retarder son procès de plusieurs mois, ce qui signifie que son procès se tiendra très probablement après les élections du mois de mars. Aux élections, il espère gagner une coalition majoritaire qui lui permettra de rester à l'abri de certaines poursuites. L'annonce signifie que les prochaines élections se dérouleront donc sur la question de savoir si Benjamin Netanyahou devrait bénéficier de l'immunité ou pas, et de rester en fonction ou pas, à savoir qu'il devra démissionner pour être jugé. Le cas échéant, Benjamin Netanyahou a été inculpé en novembre pour corruption, fraude et abus de confiance, après avoir échoué donc pour réunir la majorité au pouvoir à la suite d'élections consécutives l'année dernière. On écoute Benjamin Netanyahou.
It's my intention to stand before the court to shatter all the fabricated accusations against me. Dear citizens of Israel, the immunity law is meant to protect elected officials from tailored lawsuits, from serving political cases whose aim is to harm the will of the people.
Donc Benjamin Netanyahou, la Russie prend aujourd'hui la présidence du processus de Kimberley qui encadre le commerce des diamants en Afrique et le Kremlin ne cache pas sa volonté d'en assouplir les règles avec au cœur des débats les diamants de la Centrafrique. Depuis Moscou, Paul Gogo.
La Russie s'est peu exprimée sur sa présidence du processus de Kimberley, mais la position de Moscou sur le sujet ne fait pas mystère. Moscou estime qu'il est temps d'assouplir les conditions de vente des diamants, notamment en Centrafrique. Le vice-ministre des Finances russe, Alexei Moiseyev, estimait mi-décembre que la Russie devait concevoir une feuille de route pour aller dans la direction d'une reprise de la vente du diamant dans toutes les régions de Centrafrique. On sait la Russie de plus en plus engagée dans ce pays en quête d'influence en Afrique. Le Kremlin lorgne sur de nombreuses ressources du pays. Dans le domaine du diamant, une entreprise russe a récemment fait parler d'elle. La Lobey Invest est accusée d'avoir déjà commencé à faire du commerce de diamants avec des groupes non autorisés par le processus de Kimberley. L'entreprise comme le ministère des Affaires étrangères de Russie ont démenti, mais la Russie a déjà obtenu plusieurs autorisations d'exploitation en Centrafrique. L'industrie du diamant n'est pas particulièrement une industrie d'avenir, mais nul doute que le Kremlin saura utiliser sa présidence pour aller dans le sens des gouvernements desquels il tente depuis quelques mois de se rapprocher.
Voilà donc Paul Gogo depuis Moscou pour RFI. Coup d'œil météo pour aujourd'hui. À Perth, il fera 26 degrés. Adélaïde, 34. Melbourne, 24. Hobart, 23. Canberra, 35. Sydney, 25. Brisbane, 31. Cairns, 33. Et Darwin, 34 degrés. Un rappel des grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Les incendies en Australie, pas de signe d'accalmie, on l'a vu dans ce journal. En France, 28e jour de grève dans les transports, alors même que le statut officiel de la SNCF vient de changer en ce début 2020. Et la Russie, on vient de l'entendre, qui souhaite faire la mainmise sur les diamants de Centrafrique. C'est en tout cas la crainte dans le pays, alors que la Russie prend la tête de l'autorité qui régule le commerce des diamants africains. 13h14, courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour le sport.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.